Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercy. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La crise institutionnelle en Espagne à propos de la Catalogne devient chaque jour plus aiguë. Nous sommes à 4 jours du référendum d'autodétermination. La police régionale dit craindre maintenant des troubles. Reportage dans un instant d'Annabelle Grelier. Le gouvernement présente son projet de budget pour la sécurité sociale. Le retour à l'équilibre repoussé à 2020. Le budget prévoit notamment une forte hausse du forfait de séjour à l'hôpital et aussi du prix du tabac. Précision avec Olivia Cohen. 300 000 personnes de plus de 60 ans en France en situation d'isolement extrême. C'est le constat fait par l'association Les Petits Frères des Pauvres, dont nous parlera François-Pierre Noël dans cette édition. Et puis on évoquera aussi la disparition du fondateur de Playboy, Hugues Hefner, 91 ans. Évocation qui sera signée Cécile de Carvaz-Doué, l'invitée de la séquence interview, Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
On reçoit le journaliste éditorialiste Bernard Guetta pour son livre Dans l'ivresse de l'histoire qui paraît chez Flammarion. Un récit, il y raconte les événements dont il a été témoin, les révolutions, les ruptures aussi qui justifient ses engagements, l'ivresse de l'histoire. On espère qu'il n'a pas dessoulé ou qu'il ne dessoulera pas d'ici 12h55 parce que c'est un plaisir aussi qu'il s'est communiqué. Il sera donc avec nous tout à l'heure, mais déjà peut-être un peu dans votre journal.
Absolument, et c'est prévu.
Bienvenue à lui.
Nous sommes donc à 4 jours de ce référendum en Catalogne, référendum d'autodétermination, et c'est la rue qui manifeste. La police régionale dit craindre des troubles après que la justice espagnole a donc ordonné aux forces de l'ordre de barrer l'accès des bureaux de vote ce dimanche. Hier, c'était les lycéens favorables au référendum qui décidaient de se mettre en grève. Ils envisageaient d'occuper même les établissements qui pourraient servir de bureaux de vote. Et les étudiants les ont rejoints aujourd'hui pour une grande manifestation. On retrouve sur place Annabelle Grelier. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on assiste actuellement donc des deux côtés, il faut bien le voir, on est à quelques jours de ce vote, des deux côtés à l'élaboration de plans, soit pour empêcher ce scrutin, soit au contraire pour tenter malgré tout de le tenir, de le conserver. C'est à qui va gagner cette course, c'est la grande question.
Oui, alors la justice de son côté a démantelé la logistique du référendum. 10 millions de bulletins de vote et 45 000 convocations d'assesseurs ont été saisies. L'ordre a été donné de mettre sous serré le matériel, les urnes, et d'empêcher l'accès aux établissements scolaires où doit se dérouler le scrutin. Quelques 700 maires sont également menacés d'arrestation. Le gouvernement espagnol a mobilisé les 2/3 des policiers anti-émeutes du pays, tous dépêchés en Catalogne et logés sur des ferries dans le port de Barcelone ou de Tarragone. Au total, 10 000 membres des forces de l'ordre seront déployés en vue du référendum dimanche. Du côté des indépendantistes, la résistance s'organise. À chaque fermeture de site web et d'organisation de la société civile, un autre site est créé. Selon le quotidien El País, les services de renseignement rapportent qu'un groupe de hackers russes opérerait actuellement pour aider à dupliquer les sites d'information sur le référendum pour empêcher qu'il ne soit réduit au silence. La coordination des bénévoles échappe de toute façon à la police, en communiquant sur WhatsApp et même sur la messagerie cryptée Telegram. Pour les indépendantistes, il est important de démontrer le caractère pacifique et joyeux de tous les événements qu'ils organisent. Ce midi, les étudiants, vous le disiez, ont lancé leur marche dans le centre-ville de Barcelone. Les ordres professionnels se mobilisent également, les avocats, les architectes et le patronat. Un grand rassemblement est prévu vendredi soir sur la place d'Espagne, le point d'orgue de cette campagne. Ada Colau se dit tout de même inquiète. La maire de Barcelone craint que sa ville devienne le théâtre d'affrontements dimanche et elle a appelé ce matin l'Union européenne à jouer les médiateurs pour faire retomber un peu cette crise qui oppose Madrid au gouvernement de Catalogne.
Merci beaucoup Annabelle Grelier, donc en direct de Barcelone. L'ancien Premier ministre français Manuel Valls, qui est né, comme on le sait, à Barcelone, se prononçait hier soir contre l'indépendance qui supposerait, selon lui, la fin de ce qu'est l'Europe en tant qu'union d'États-nations. Aurore Berger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole donc du groupe La République En Marche. Est-ce qu'il faut interdire les Catalans, ce vote pour les Catalans?
Vous savez que ce vote, il n'est pas permis par la Constitution espagnole de toute façon, puisqu'on ne peut pas avoir un référendum d'autodétermination d'une région au sein de ce qu'est la Constitution espagnole. Donc moi, je suis plutôt pour le respect, en effet, des institutions et de la Constitution, le respect de ce que sont les États-nations, comme vous le rappeliez. Et je pense que notre intérêt, c'est celui de l'unité de l'Espagne.
Notre intérêt, ça veut dire
notre... L'intérêt européen, c'est d'avoir des États qui sont forts, des États-nations qui sont forts, qui sont respectés dans leur souveraineté, dans leurs frontières, et en effet, d'avoir du coup une Espagne qui pourra être unie, et je l'espère, plus apaisée.
Alors, on salue aussi l'invité donc de la dernière partie, Bernard Guetta. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ça vous pose pas un petit problème que d'interdire comme ça une consultation démocratique, malgré tout ?
Si, évidemment. Évidemment, parce que la politique que mène M. Rajoy, le gouvernement central de Madrid, me semble totalement contre-productive. Les sondages qui ont été faits, il y a déjà 15 jours, 3 semaines, montraient que le non bénéficiait d'une avance de 8-9 points par rapport au oui à l'indépendance. Et là, en se comportant, je vais employer des gros mots, mais comme une armée d'occupation en Catalogne, l'Espagne est en train de radicaliser les Catalans, même ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance et qui étaient majoritaires. Et c'est d'autant plus dangereux que ce comportement est en train de réveiller l'indépendantisme basque qui vole au secours aujourd'hui des Catalans. Et l'Espagne, ou en tout cas son gouvernement, est en train de se mettre dans un danger considérable et évidemment très préoccupant pour la stabilité de l'Union européenne aussi.
Alors, bon, vous, vous n'êtes pas pour l'indépendance de la Catalogne.
Écoutez, bah,
en revanche,
rien.
Vous êtes
je ne suis pas
Catalan, dans votre
moi,
livre, vous
nous
dites
pas.
Que vous êtes un journaliste engagé qui n'a pas de position neutre.
Non,
vous,
non.
Vous êtes contre
mais on n'est pas
le fait
obligé d'être engagé sur tout.
Bon, bon, je voulais simplement vous dire que pour le Kurdistan, en revanche, où il y a eu un référendum également récemment, très large majorité pour le oui, est-ce qu'il faut, là, en l'occurrence, se réjouir que le Kurdistan puisse devenir indépendant, irakien ?
Écoutez, je comprends beaucoup mieux l'aspiration à l'indépendance des Kurdes. Ils sont persécutés dans tous les pays où ils vivent comme minorité. Ils ne sont plus persécutés aujourd'hui en Irak parce que ils sont complètement autonomes du pouvoir central. Alors, je comprends, je sympathise, mais en même temps, était-ce le bon moment ? Quand je vois que l'Iran, la Turquie, la Syrie, l'Irak sont en train de se liguer d'une manière terrible, probablement avec le soutien russe d'ailleurs, contre l'indépendantisme des Kurdes, j'ai très très peur qu'un nouveau conflit n'éclate dans la myriade de conflits qui déchirent aujourd'hui le Proche-Orient.
Oui, effectivement, Bagdad qui décrétait ce matin que tous les vols internationaux de et vers Erbil, la capitale du Kurdistan,
c'est un blocus qui est en train de se mettre en place.
Suspendu, effectivement. Merci beaucoup, Bernard Guettant. On vous retrouve donc pour la dernière partie de la Grande Table. On revient en France avec les budgets. Après le budget de l'État, voici que le gouvernement présentait aujourd'hui son projet de budget pour la sécurité sociale. Donc, il y avait prévu un retour à l'équilibre dans les prochaines années, mais ça a été repoussé. L'échéance a été repoussée. Aussi à 2020. Il faut dire que ce budget prévoit des hausses du forfait de séjour à l'hôpital, la hausse du prix du tabac aussi, des mesures également pour les prix des médicaments. Qui précisément va être concerné par ces économies, Olivia Cohen ?
Eh bien, c'est l'assurance maladie qui est dans le viseur depuis plusieurs années, car elle représente à elle seule 65% du déficit de la sécurité sociale. L'objectif, Antoine, en 2018, c'est de dépasser la barre des 4 milliards d'euros d'économies, et pour ça, ce sont les mêmes secteurs qui vont être mis à contribution. D'abord, les particuliers, ce sont leurs mutuelles complémentaires qui devront prendre en charge l'augmentation du forfait hospitalier que vous avez mentionné. Il est actuellement de 18 euros par jour et il devrait passer à 20 euros. En parallèle, l'assurance maladie veut miser sur l'ambulatoire, c'est-à-dire les soins en ville pour moins d'hospitalisation. Et puis la chasse à la fraude et des prescriptions mieux établies sont aussi de rigueur pour faire des économies. L'industrie pharmaceutique également est ciblée. Agnès Buzyn, je la cite, réclame au laboratoire un effort considérable avec une baisse du prix des médicaments qu'on ne connaît pas encore et une prescription plus systématique de générique. Alors derrière tout ça, il y a un message, les efforts payent, on continue sur notre lancée. Un message étayé par un déficit moins important que prévu pour 2017, il a tout juste été publié par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Il s'élève à 4,5 milliards d'euros au lieu de 5,5 milliards. Alors la petite compensation à l'horizon, c'est une revalorisation des minima sociaux. Alors je les rappelle, prime d'activité pour les travailleurs à revenus modestes, aide à la garde d'enfants, allocation adulte handicapé ou encore minimum vieillesse, donc tout ça est prévu. Pas possible en revanche de satisfaire les retraités, leur pension devait être revalorisée en octobre, mais pour rester dans les clous, cette revalorisation a été reportée à janvier 2019, a annoncé le gouvernement.
Olivia Cohen, merci. Effectivement, les retraités qui sont appelés d'ailleurs à manifester aujourd'hui en France contre cette hausse de la contribution sociale généralisée qui entraînera pour une bonne partie d'entre eux une perte de pouvoir d'achat, une hausse qui devrait affecter les retraités touchant des pensions supérieures à 1200 euros par mois, soit 60% d'entre eux. De manière générale, le projet de budget 2018 qui a été défendu hier par le gouvernement passe assez mal ce matin auprès des éditorialistes de la presse quotidienne. Les fortes baisses d'impôts, dont celles sur l'ISF, sont considérées comme un cadeau fait aux plus aisés et les réactions politiques se poursuivent sur ce même thème. Ainsi, l'ancien ministre socialiste des Finances, Michel Sapin, interviewé ce matin sur CNews.
La rupture, elle est sur la question fiscale. Un, la suppression de l'impôt sur la fortune, sur les fortunes financières. Mais il y a une autre mesure qui passe relativement inaperçue, parce que ça s'appelle le prélèvement forfaitaire unique. Ça veut dire que les plus gros revenus qui viennent uniquement des actions, de la fortune financière, vont être imposés à 12,8%. C'est le taux d'imposition d'un jeune cadre qui gagne 2800 euros par mois. C'est de l'injustice fiscale. Et demandez aux Français qui ont voté pour Emmanuel Macron s'ils ont voté pour qu'il supprime l'ISF pour les plus aisés et pour que ceci soit imposé à 12,8% comme un pauvre cadre moyen. Comme malheureusement le plus facile, c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est pas d'aller chercher où sont les abus, de les poursuivre, nous avions commencé, il y a sûrement encore des abus que l'on peut poursuivre. C'est de dire, j'ôte 5 euros par personne, qu'est-ce que c'est 5 euros? Ça ne pèse rien. Ça prouve vraiment que ce sont des gens très éloignés de la réalité. Et là, c'est pas 5 euros. 1,7 milliard pris aux gens les plus modestes pour les donner aux gens les plus aisés.
Aux gens les plus aisés, Monsieur Sapin, donc sur CNews. Et sur un registre assez voisin, finalement, la présidente du Front National, Marine Le Pen, juge que le signal donné par la loi de finances, c'est spéculer. On l'écoute.
46% des baisses d'impôts sont au profit des 10% des Français les plus aisés. Il y a parallèlement une augmentation lourde du tabac, une augmentation du diesel, des augmentations annoncées de la fiscalité écologique. Et surtout, on exonère la rente financière en réalité. Le signal, c'est le suivant, spéculer. Voilà, on le voit dans le choix qui a été fait pour l'ISF. On voit bien que le président de la République dit aux Français qu'ils doivent arrêter de gérer en bon père de famille, ils doivent arrêter de se constituer un patrimoine immobilier, ils doivent arrêter d'envisager l'idée de le transmettre à leurs enfants. Il faut qu'ils spéculent. Voilà. Et s'ils spéculent, alors ils seront gagnants.
Marine Le Pen, c'était sur Sud Radio. Aurore Berger, l'exemple de la suppression donc de l'ISF très repris ce matin pour en faire donc uniquement une taxe sur l'immobilier et non plus sur les revenus financiers. C'est quand même assez difficile de mettre cette mesure dans la catégorie hausse pour le pouvoir d'achat parce que ça ne concerne vraiment que des catégories précisément très riches.
Mais personne ne prétend que c'est une mesure libératoire de pouvoir d'achat. La question, c'est de se dire, est-ce que l'ISF tel qu'il est organisé, cet impôt est organisé aujourd'hui, est un impôt qui est efficace ou est-ce que c'est un impôt qui a été plutôt incitatif à ce que des personnes partent de France, n'investissent pas en France? Vraisemblablement, ça n'a pas été un impôt incitatif en tout cas, plutôt un impôt qui a découragé.
Donc
moi,
j'assume pleinement
cette réforme de l'ISF qui fait qu'on va uniquement taxer la valeur immobilière. Là encore, contrairement à ce que Marine Le Pen veut faire croire, l'idée n'est pas de taxer les petits propriétaires, puisqu'il y a évidemment un seuil avant d'être taxé. Et il y a en plus de toute façon un abattement qui est resté sur la résidence principale, qui est de 30%. Donc les Français, on va dire,
bon,
qu'elle
mais
désigne
cela dit,
la France.
Tous ceux qui ont des revenus en actions, par exemple, qui vont être sortis de l'impôt sur la fortune.
Vous payez des plus-values sur les actions quand vous les libérez. Vous n'êtes pas exempt de toute taxation. Par contre, on considère qu'il faut faire des réformes qui sont efficaces, qui ont été également d'ailleurs annoncé, présenté dans les campagnes présidentielles et législatives. Il n'y a pas d'agenda caché en matière de fiscalité.
Il y a quand même une course internationale parce que Donald Trump, il se trouve, présente aussi son budget, un projet de réforme fiscale qui prévoit une réduction de l'impôt sur les sociétés, sur les revenus des plus riches, aussi dans l'idée de dire il faut que les gens restent aux États-Unis. Un projet qui prévoit une baisse de l'impôt sur les sociétés, du taux marginal d'imposition pour la tranche supérieure, ainsi qu'un taux unique de 25% pour les entreprises individuelles.
Mais je ne suis pas sûre que Donald Trump, par exemple...
Est-ce que
ce n'est
pas une course qui va nous amener à finalement enlever toute possibilité de prélever des impôts sur les gens supposés créer la richesse?
Je ne suis pas certaine que Donald Trump ait prévu, par exemple, d'augmenter le minimum vieillesse pour les retraités les plus fragiles aux États-Unis. Je suis même persuadée du contraire. Je ne suis pas certaine qu'avec Donald Trump, à l'issue, par exemple, de son mandat, il y ait l'équivalent d'un 13e mois pour ceux qui gagnent le SMIC. Nous, c'est ce qu'on prévoit. Donc, il y a un équilibre dans ce que l'on prévoit, justement, aussi au profit de ceux qui travaillent.
Voilà, Aurore Berger, merci. On vous retrouve donc dans un petit instant pour la séquence interview. Un tout petit mot pour dire encore sur ce thème de la richesse dans le monde, que selon une étude publiée par Capgemini ce matin, le nombre de millionnaires dans le monde donc a augmenté de près de 8% l'année dernière. Ils sont 16,5 millions à se partager une fortune de 63 500 milliards de dollars. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. En tout cas, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine en comptent le plus grand nombre, près des deux tiers. La France arrive en cinquième position avec 579 000 millionnaires. Une étude présentée aujourd'hui par l'association Les Petits Frères des Pauvres en France. On passe évidemment d'un sujet à l'autre sans vraiment transition. En France, il y a 300 000 personnes de plus de 60 ans qui sont en situation d'isolement extrême, c'est-à-dire qui ne voient plus leurs amis ni leur famille, équivalent donc d'une ville comme Nantes. Il faut prendre la dimension du problème. Et selon ce rapport, ce qu'on appelle donc la mort sociale est de plus en plus forte quand on vieillit. François-Pierre Noël, vous avez lu pour nous cette étude.
Oui, plus d'un quart des personnes de plus de 60 ans se sentent seules chez elles, oubliées, délaissées par leurs enfants ou leurs amis. Environ une personne sur trois ne sort pas tous les jours de sa maison. Et plus on vieillit, plus on a du mal à se déplacer, c'est logique. 10% des plus de 85 ans restent tous les jours au chaud chez elles. L'inquiétude de vivre isolée chez soi touche surtout les personnes qui habitent à la campagne, particulièrement les seigneurs d'Occitanie et du centre Val-de-Loire, et ceux qui ont des revenus faibles, moins de 1000 euros par mois. L'autre grande peur aussi, c'est de perdre le contact avec sa famille, les échanges avec ses amis et même ses voisins. Près d'un tiers des Français de plus de 60 ans n'a personne à qui parler de ses problèmes personnels. C'est le cas de Simone, 83 ans. Elle vit dans son petit studio de 16 mètres carrés à Paris. Et ce qui la terrifie, c'est comme elle le dit, d'être retrouvée morte toute seule chez elle plusieurs mois après. Alors bien sûr, ce sentiment d'isolement n'est pas un phénomène nouveau. Mais depuis 40 ans, l'impression de solitude augmente chez les personnes âgées, notamment à cause des changements dans les structures familiales. À l'époque, il n'était pas rare de vivre avec la grand-mère, les parents et les petits-enfants sous le même toit. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Pourtant, ces sentiments de solitude et d'isolement ne sont pas les préoccupations principales des personnes de plus de 60 ans. Leur plus grande crainte, c'est la perte des proches, puis la perte d'autonomie. La solitude et l'isolement, eux, n'arrivent qu'en 9e position.
François-Pierre Noël, merci. On termine avec une évocation de la disparition du fondateur de Playboy, Hugues Hefner, pionnier donc de la presse érotique grand public. Il avait 91 ans, il avait donc fondé en 53 ce magazine dit de charme qui allait apporter sa pierre à la révolution sexuelle aux États-Unis et au-delà. Hugues Hefner qui disait notamment de lui-même qu'il était un humaniste, qu'il défendait les femmes. Avec Playboy, nous avons poussé à une révolution sexuelle dont les femmes sont les premières à bénéficier. Avant, elles étaient perçues comme les descendantes d'Ève, responsables du péché originel, et maintenant donc elles sont libérées. Mais il existe aussi dans le mouvement féministe des éléments puritains qui prônent une forme de prohibition sexuelle. Entertainment for Man, c'était le sous-titre de Playboy, c'est le slogan du magazine. Cécile de Kervasgué, est-ce qu'on peut dire donc que M. Hefner a participé au mouvement féministe d'une façon ou d'une autre?
Ça dépend ce que vous appelez féministe, Antoine. Si pour vous, photographier une femme nue dans un garage, c'est une manière de dire les femmes aussi ont le droit d'être garagistes. Alors oui, vous pouvez considérer qu'il l'était. En tout cas, lui, vous l'avez dit, se considérait comme un artisan de la libération sexuelle. Celui qui prétendait avoir couché avec plus de 1000 femmes le confiait au New York Times en 1992. Ce qui le rendait le plus fier, c'était qu'il avait changé la manière de voir le sexe, notamment hors mariage. Playboy répondait ainsi à un besoin de la société américaine. Le premier numéro, produit dans sa cuisine en 1953, s'était ainsi vendu à 50 000 exemplaires pour atteindre 1 million en 1960, 7 millions dans les années 70. Dans ce magazine, pour hommes, on trouvait pêle-mêle des femmes nues dans des poses suggestives. Marilyn Monroe faisait par exemple les pages centrales du premier numéro, mais il y avait aussi des entretiens avec les grands personnages, souvent masculins, de l'époque, et notamment ceux de la contre-culture. Miles Davis pour le numéro 1, puis Ian Fleming, Ray Bradbury, Margaret Atwood ou Jack Kerouac, et puis encore Fidel Castro, Frank Sinatra, Marlon Brando et Jimmy Carter, qui était alors candidat aux présidentielles américaines et qui confiait qu'il avait déjà commis un adultère, mais dans son cœur. Playboy a donc réussi à être doublement la cible des conservateurs et des féministes. Et cette contradiction s'applique, Antoine, aussi à son fondateur, Hugues Hefner. Était-il un progressiste visionnaire ou bien juste un pornographe lubrique qui faisait des femmes des poupées déguisées en petits lapins qui d'ailleurs lui rapportaient gros? Dans les années 60, Gloria Steinem, une féministe américaine, fondatrice du magazine MS, s'était infiltrée dans un club Playboy pour justement le raconter de l'intérieur et parce qu'elle estimait que la révolution sexuelle serait un échec si seuls les hommes avaient le droit de la définir. Une question qui traverse encore le féminisme d'aujourd'hui, alors que de son côté, Playboy peine à se défaire d'une étiquette un peu ringarde.
Cécile de Kervasgué, merci. Bernard Guetta, vous lisiez Playboy, vous avez... quand vous étiez jeune.
Vous êtes bien indiscret.
Vous nous livrez un livre de souvenirs, de mémoire.
Je vais être complètement ridicule. Non, je n'ai pas lu Playboy. Mais j'ai tendance à penser que oui...
Vous regardiez peut-être, vous ne lisiez
que
pas.
Que oui, taisez-vous. Que oui, Playboy a participé de la lutte contre le puritanisme et en ce sens de la révolution sexuelle et très partiellement avec une ambiguïté gigantesque évidemment de la libération de la femme.
Aurore Berger, vous êtes d'accord avec vous ? Est-ce que
indiscutablement
vous êtes d'accord ? Non, vous êtes d'accord avec Bernard Guetta que ça a participé à la libération des mœurs en général ?
Sur la lutte contre le puritanisme, surtout aux États-Unis, ça, oui, je partage cet avis. Après, sur la libération des femmes, j'en suis moins certaine.
Les deux choses sont liées.
Sur le fait de d'essentialiser le corps de la femme, je ne suis pas certaine que ça aide.
Voilà, peut-être question de génération. Alors, Stéphane Robert.
Il y a rien puisqu'on va parler des sénatoriales. Non, on vient d'apprendre il y a quelques minutes que les régions se retirent de la conférence des territoires, puisqu'il y a la conférence des régions aujourd'hui. Non, mais on va revenir, parce qu'il y a,
c'est beaucoup moins sexy que Playboy, là.
Oui, il y a eu les sénatoriales le week-end dernier, dimanche. On a vu le groupe En Marche, finalement, être réduit par rapport à ce qu'il était auparavant. Il y avait 29 sénateurs, on n'a plus qu'une vingtaine, a priori, 28. Aujourd'hui. 28, c'est pas sûr, ça. Hein.
Bon, manifestement. Alors,
enfin, bon, on fera les comptes lundi, puisque c'est lundi prochain qu'on saura précisément la constitution des groupes. Mais, ceci dit, il y a eu une vraie expression du mécontentement des territoires vis-à-vis d'En Marche. On apprend là aujourd'hui que les régions donc se retirent de la conférence des territoires. Et on a eu les explications d'En Marche dimanche soir qui disaient ce sont les derniers soubresauts de l'ancien monde. Ça, c'est la sénatrice Bariza Chiari qui disait ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut mettre tous ces vieux barbons à la retraite, au pain sec et à l'eau?
Je sais pas, une question de génération, parce que le Sénat s'était quand même aussi renouvelé, donc la moyenne d'âge avait baissé, donc c'est pas juste un enjeu.
60 ans quand même.
Un enjeu générationnel. Non, mais ça s'est féminisé.
Enfin, quand même, tous les présidents de région qui s'en vont de cette conférence, ça vous.
Ouais, il y a deux questions qui, pour moi, sont très différentes. Il y a une question qui était sur les sénatoriales et le résultat des sénatoriales. Le résultat des sénatoriales, il est pour moi mathématique, lié tout simplement au fait qu'il y avait des élections locales qui préexistaient à l'existence de notre mouvement La République En Marche. On n'était pas candidat au municipal, on n'était pas candidat au régional, on n'était pas candidat au départemental. Donc on n'avait pas un vivier de grands électeurs comme le vivier a pu se constituer à droite. Face à cela, il y avait deux solutions. Soit on avait une vision qui était finalement clientéliste, où on revenait sur un certain nombre de propositions qu'on avait pu formuler dans la campagne et d'engagements qu'on avait pris sur la question, par exemple, de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, parce que c'était une mesure dont les collectivités locales n'ont pas forcément envie, mais nous, c'est une mesure qu'on a assumée. Voilà, je pense qu'il y a eu une campagne à droite qui a été maligne pour eux, puisque ça leur a été profitable, et qui a été d'inquiéter un certain nombre de collectivités locales sur les mesures que l'on souhaite prendre.
Alors, inquiétude qui se remanifeste aujourd'hui par ce geste très symbolique des présidents de région réunis en congrès à Orléans qui, après le discours d'Édouard Philippe, décident de se retirer de la conférence des territoires. Est-ce qu'il n'y a pas un craquement qui se produit là entre le pouvoir central et les régions ?
Je ne pense pas qu'il y ait de craquement, il y a juste des positionnements qui sont des positionnements politiques de présidents de région qui n'ont pas forcément envie d'être partie prenante d'une réforme plus large aussi, de l'efficacité par exemple de la dépense publique. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'annonce d'Édouard Philippe ce matin en conférence des territoires ? C'est de dire qu'il y avait un fonds exceptionnel de 450 millions d'euros, qui n'était pas, il n'y avait pas d'automaticité à ce que ce fonds puisse être alloué aux régions. Il ne sera pas alloué aux régions parce que nous on a fait un choix qui est de dire que l'État versera ce qu'il devait verser. Il n'y a pas de baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, mais qu'il y a un engagement des collectivités avec l'État sur la manière avec laquelle on dépense l'argent public et l'argent public des Français, tout simplement. Qu'après, chacun soit dans un jeu politique, il ne vous aura pas échappé, par exemple, que Laurent Wauquiez est président de région, qu'il est aussi dans une compétition interne à son propre parti pour prendre la présidence du mouvement. Donc, on peut aussi peut-être envisager qu'il y ait d'autres interprétations.
On peut l'envisager.
Au-delà des jeux politiques, on a les retraités qui manifestent aujourd'hui. On a eu tout un tas de manifestations les semaines précédentes. Il y en a d'autres peut-être à venir. Est-ce que vous craignez une agrégation des mécontentements ?
Je pense que certains l'espèrent. Moi, je le crains pas. Je le crains pas parce que c'est extrêmement différent des manifestations et des mouvements qu'on a pu connaître précédemment pour plusieurs raisons. Déjà, que contrairement à l'espèce de procès en illégitimité qu'on a matin, midi et soir de la part de la France insoumise, du Front National et parfois d'une partie de la droite, Emmanuel Macron a été placé en tête d'une élection présidentielle au premier tour, ce qui lui a permis de se qualifier au second, ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, et qui lui a permis d'obtenir une majorité parlementaire. Les Français ont fait un choix au moment des législatives. Ils auraient pu contester la politique que
avec
nous entendons mener.
Avec beaucoup d'abstention quand même aussi.
Très bien, mais l'abstention, elle est la même pour tout le monde. L'abstention, ça veut dire aussi que les offres alternatives...
Bon, ça n'empêche pas qu'on ait été élus, qu'il y ait de la contestation et que ça puisse cristalliser.
Je finis juste sur l'abstention, parce que moi, je trouve que c'est quand même un argument qui est très dangereux à utiliser. S'il y a eu de l'abstention, ça veut dire aussi que les offres alternatives qui étaient proposées n'ont pas réussi à convaincre. Si les gens avaient voulu se mobiliser et avaient envie de voter pour le Parti de la France Insoumise, ils avaient la possibilité de le faire. Adrien Quatennens, qui nous donne des leçons de morale tous les jours, il a été élu avec 43 voix d'avance. Bon, bah il est élu, il est député et il est légitime. Mais ils ont un groupe parlementaire qui est de 17 membres, là où nous, on a le premier groupe parlementaire. Donc les Français ont fait un choix clair au moment des législatives, qui est de dire, mettez en œuvre votre politique, obtenez des résultats et on vous jugera là-dessus.
Bon, Stéphane Imbert, c'est fini.
Toute petite question. Voilà. Non, mais à chaque fois, on voit qu'au cœur des mécontentements, là, les retraités aujourd'hui, hier, la France Insoumise et les syndicats, et puis demain, là, aujourd'hui, les régions, c'est les questions budgétaires. Est-ce que les Français sont des paniers percés? Est-ce qu'il faut leur serre la ceinture?
Mais le budget, c'est des choix politiques. C'est le premier budget qu'on présente. Donc, évidemment, il reflète choix politiques que l'on fait et d'équilibre aussi politique. Donc, qui sont à la fois sur l'efficacité de la dépense publique, la manière avec laquelle on organise les choses. Et puis aussi, par exemple, il y avait une présentation qui était un peu biaisée, je trouve, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Qu'on augmente le minimum vieillesse, qu'on augmente l'allocation adulte handicapé. Quand pour la première fois, on parle des familles monoparentales dans ce pays en disant que leurs frais de garde pourront être pris en charge jusqu'à 600 euros par mois. Je pense qu'on a un équilibre politique aussi qui est en train de se trouver.
De gauche et de droite, donc en même temps. Merci Aurore Berger, députée et porte-parole du groupe La République En Marche. À l'Assemblée nationale, météo sans grande originalité, gris, humide au nord, ensoleillé au sud, température 17 à 27 degrés, édition Elisabeth Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Stanislas Fazak.